On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
J'avais 14 ans. J'ai quitté l'école et j'ai commencé à faire le citron. Et mon papa, il m'a dit, je te donne le terrain, les engrais, l'eau, tu fais ce que tu veux. Et maintenant, il y en a, j'en ai partout des arbres. C'est comme ça. Hein.
Là. Et donc on voit, ils sont encore un peu verts.
Oui, ils sont encore un peu verts, mais...
Mais ça, pour les huiles essentielles, c'est magnifique, ça.
Voilà. Et le jus est très bon.
Le jus doit être bon.
Ouais.
Saint citron, priez pour nous.
Oggi vogliamo preparare il limoncello, il classico e famosissimo liquore.
Alors, les citrons sont originaires des contreforts himalayens.
Le matin j'arrive et je vends mes citrons de Tel Aviv. Ils sont beaux et j'y tiens, ce sont le seul garanti sans pépin.
Ça c'est spécial menton, hein. Tu vois, il est réputé. Hein.
Un citron mûr sur un arbre, il peut rester 2, 3, voire 4 mois avant de tomber.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment et c'est le seul fruitier au monde qui produit toute l'année des fleurs, des petits fruits jusqu'au citron à maturité.
C'est pour ça qu'on appelle ça 4 saisons.
4 saisons, voilà.
Saint-Citron,
bonjour à toutes et tous. Dans la grande famille des agrumes, je demande le citron. Oui, le citron, le fruit d'or, le Magic Citrus. Un complice en cuisine qui a la bonne idée d'apporter soleil et vitamines en plein hiver. Il y a d'ailleurs plein de soleil aujourd'hui dans le studio dont on va déguster. Un fruit qui flirte aussi, on va le voir, avec finalement toutes les saisons. C'est ça qui est intéressant, notamment avec le citron. Aujourd'hui, sur le plateau dont on va déguster, on épluche méthodiquement cet agrume avec deux invités. Alors mon premier, tout d'abord, est producteur de citron en agriculture biologique. On dit agrumiculteur hein, chez les pros, je crois.
Exactement.
Agrumiculteur, même si l'agrumiculteur ce n'est pas forcément que le citron, on va le voir.
Oui.
Où ça? Eh bien à Menton, dans les Alpes-Maritimes, un terroir béni des dieux qui donne dans le citron quand même depuis le 15e siècle. C'est Laurent Ganac, bonjour.
Bonjour.
Comment se porte cette culture renaissante du citron de Menton? On va le voir avec vous. Vous êtes arrivés les bras chargés de citron de Menton. On va se presser des fruits, on va même manger le zeste. On va voir tout ça avec vous. Et on va voir ça aussi avec ma seconde invitée qui aime le citron au point de lui avoir consacré le citron, 10 façons de le préparer, un charmant petit livre dont je vous laisse deviner la couleur. Jaune citron, c'est aux éditions de l'Épure. Alessandra Pierini, bonjour.
Ah, bonjour à toutes.
Ça va Alessandra?
Molto bene, merci beaucoup.
Nos auditeurs vous connaissent, on peut le dire, vous êtes déjà venu nous parler du parmesan, de la cuisine aussi de votre ville d'origine qui est
Genova, donc la cuisine génoise, la cuisine de la côte Ligure.
C'est ça, vous vous souvenez d'ailleurs de ce pesto à la genovese que vous aviez fait en direct quand même à notre
je
micro.
Je me souviens, c'était une performance, vous m'avez fait faire ça aussi.
C'est ça, absolument, c'était il y a quelques étés. Vous tenez l'épicerie italienne très fine, RAP 4 rue Fléchier, Paris 9e. Quand on parle de citron avec vous, Alessandra, c'est tout un voyage en Italie.
C'est Amalfi, c'est Sorrento, c'est Capri, Positano, tous les lieux de rêve.
Non, je ne l'ai plus, on veut partir en vacances. Et vous nous avez apporté aussi tous ces citrons d'Italie, justement. Et on va voir avec vous qu'on peut l'utiliser du zeste au ziste, de la feuille au jus, avec quelques recettes surprises. Esther El Payani, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver.
Moi aussi.
D'autant plus ravis que votre chronique aujourd'hui, elle est totalement tarte.
Oui, j'assume complètement tarte, mais je suis partie en quête des origines de la tarte au citron.
Et oui, et on va voir que c'est toute une enquête. Effectivement, très intéressant. On vous retrouve tout à l'heure avec d'ailleurs une tarte au citron maison. La fine équipe dont on va déguster en régie, Michel Billou, Nadia Chougui, Stéphane Poitvin, Djoubaka pour la programmation musicale. Juste avant de se presser le citron, on se presse dans mon adresse de la semaine.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Chers amis, avez-vous entendu parler de cette légende urbaine qui circule en ce moment? Une pizza artisanale qui aurait quand même débarqué en plein Paris, au tarif ultra compétitif de 5 euros. Ouais, 5 euros la pizza, une authentique margarita préparée et cuite dans les règles napolitaines, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, mais vous êtes dans le milieu.
On en a entendu, oui, bien sûr, voilà. On a entendu parler, ça vient d'ouvrir.
Ça vient d'ouvrir, exactement, il y a quelques jours, Alessandra. Cette pizza, c'est la nouvelle botte secrète de deux trentenaires qui ne sont pas italiens, mais qui ont compris beaucoup de choses à l'Italie. Ils s'appellent Victor Luger et Tigran Sedou. On leur doit déjà les trattoria à succès, East Mama, Ober Mama, Mama Primi. Et ces deux restaurateurs ont inauguré il y a quelques jours, jeudi dernier très exactement, on était le 16 mars, une immense trattoria de 250 couverts, rurée au mur, dans le quartier de la Bourse à Paris. Ça s'appelle Pizzeria Popolare. Alors, je vous laisse le soin de traduire. Pizzeria Popolare.
Pizzeria Popolare, donc...
Populaire, hein.
Populaire.
Voilà,
populaire.
Et on va voir effectivement que cette pizza, elle est assez populaire à 5 euros. Je suis allé y balader mon micro cette semaine, à la veille de l'ouverture. Je suis tombé sur Victor, l'un des patrons en plein préparatif. Je lui ai demandé, par quel miracle on pouvait servir à Paris une pizza à 5 euros.
C'est pas compliqué, on achète tous les produits en direct en Italie et on fait tout maison. Donc là, on a un camion 3 fois par semaine qui fait Naples-Paris, qui amène notamment la tomate, la mozzarella, la farine bien sûr. Et l'autre recette, c'est le volume. On gagne moins d'argent sur une pizza, évidemment, 5 euros, il n'y a pas de miracle, mais on en vend beaucoup plus. Notre projet, c'était de démocratiser la pizza. De dire, en fait, on va faire une super bonne pizza, mais on ne va pas juste s'adresser à des bobos parisiens, on va s'adresser à tout le monde. L'idée, c'est que quand tu passes la porte, t'es en Italie, t'es à Naples. Ça passe par le fait que tout le staff est italien, ça passe par le fait que la pizza, elle est exactement même prix qu'à Naples, ça passe par le fait qu'en dessert, tu manges une petite granita au citron d'Amalfi. C'est un peu tous ces petits détails.
Est-ce que tu peux nous décrire concrètement, en quelques mots, cette pizza ?
En fait, la pizza dans l'absolu, c'est très simple. Ça cuit dans un four à 450 degrés, à bois bien sûr, qui pèse 3 tonnes, qui vient lui aussi de Naples. C'est 3 produits essentiels, la farine, la tomate, qui vient des bords du Vésuve, et la mozzarella de bufflone, qui doit être hyper fraîche.
Et bien voilà, cette pizza, ça vous branche ou pas a priori, Alessandra Pierini, mais vous qui en avez mangé quelques-unes dans votre vie?
Moi, j'aimerais bien y goûter. D'ailleurs,
ben,
c'est un exploit. Ah, je suis invitée?
Ben, je vais vous en aider, bien sûr. Oui, à 5 euros. Oh. Pas besoin d'être généreux pour vous inviter à manger une pizza.
Alors, je serai avec vous.
Alors, cette pizza, évidemment, l'un des patrons de Pizzeria Popolare nous l'a décrite, mais on ne l'a pas encore vue. Eh bien, on va mettre la main à la pâte avec les pizzaioli de Pizzeria Popolare.
Ciro Cristiano, chef de Big Mama.
Je m'appelle Giuseppe Cutraro, je suis le chef pizzaiolo de Pizzeria Popolare.
Cici, non peux faire une pizza napoletana?
Certo. En fait, il étale la pâte à la façon napolitaine. Il ne prend pas un rouleau pâtisserie pour ne pas enlever l'air. Là, on rajoute notre tomate, Danicop. C'est une super tomate, il a une acidité écrasée à la main. Et basilic fraîche, toujours. Là, on trouve le vrai goût un peu acide et qualitatif de la tomate Saint-Martin.
Alors là, il a étalé un peu de sauce tomate. Qu'est-ce qu'il a rajouté?
Du parmesan de Luca Tarantola. Ça, c'est un parmesan de montagne, de vache blanche de montagne. Et là, on va rajouter du fior di latte. C'est une mozzarella faite avec du lait de vache. Conseillé pour la pizza napolitaine parce qu'il ne dégage pas beaucoup de lait.
Alors là, il a installé donc de la fior di latte sur la pâte.
Le parmesan, comme on a dit. Huile d'olive piano grillo sicilien. Et ça contraste bien avec notre tomate assez acide. Et le basilic, qui ça donne un peu de fraîcheur à tout ça. On enfourne la pizza.
Il paraît que la pizza margherita, Alessandra, porte les couleurs du drapeau italien.
C'est bien ça.
Oui.
Blanc, rouge et vert avec le basilic, le fior di latte, donc la mozzarella et la bonne tomate. Dans ce cas, donc, c'est de la San Marzano, qui est vraiment une tomate typique de la région napolitaine.
Voilà, qui pousse sur les pentes du Vésuve, hein, ou pas très loin.
Pas très loin, pas très loin, tout à fait.
Cette pizza va faire un rapide séjour d'une minute trente. Oui, le séjour est rapide dans un four italien à 430-450 degrés. On va voir quasiment gonfler en direct cette pizza et à l'arrivée, une margarita d'environ 33 cm. Il a bien fallu que je me dévoue pour la goûter. Andiamo.
Ah, voilà. Vous sentez le parfum? Ça, on ne peut pas vous raconter malheureusement.
Mais... Oh, l'odeur.
Ça, c'est notre pizza. La pâte, elle est faite avec une biga. En fait, c'est une pâte beaucoup plus dense qu'on fait, qui repose pendant 24 heures. Ensuite, on allonge cette pâte pour en faire une vraie pâte qui repose à nouveau 24 heures. Et ensuite, on la découpe. Et sous forme du pâton, ça repose encore 24 heures. En tout, ça repose 3 jours. Et c'est ça qui donne ce croustillant.
En fait, quand on mange une pizza napolitaine, il n'y a rien à dire.
Ah, tu brûles tellement la bouche de toute façon.
Pour en manger.
Là, il y a le bon équilibre. Il y a de la tomate, assez pour qu'on sente le goût. mais il n'y en a pas trop pour que la pizza elle reste bien craquante. Ça représente environ 80 grammes de tomate qui a été écrasée à la main. La mozzarella est bien goûteuse, le parmesan donne du sel. Ça, c'est notre pizza, on est là. Oui.
L'alvéole.
Ah ouais, ouais, c'est très alvéolé.
La San Marzano è ancora meno acida. L'acido è perfetto.
La trovo ben zuccherata, secondo me.
Sì, sì, sì. È il giusto equilibrio quello del fior di latte.
E l'impasto, ti piace come è ben alveolato?
Sì, sì, l'impasto mi piace.
Et là, je dois dire qu'elle était excellente, cette margarita à 5 euros. Alors évidemment, il faut voir ce que ça va donner quand ils vont en servir des centaines par jour. On sait que l'équilibre d'une pizza, c'est quand même quelque chose de fragile. Vous irez ou pas, Esterelle?
Moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je mange. J'irai juger sur pièce.
Vous avez tout à fait raison, et on y retournera évidemment juger sur pièce. Alors, c'est le prix d'appel, 5 euros la margarita. Ensuite, il y a des prix qui s'étalent jusque 10, 11 euros. Mais ça reste quand même d'un très très bon rapport qualité-prix par rapport à une pizza artisanale à Paris, dont les prix avoisinent les 15, 16, 17 euros, quelque chose comme ça. Voilà, il y a déjà un monde fou qui s'attable à Pizzeria Popolare. Et bien, si vous voulez en faire autant, c'est 111 rue Réaumur, Paris 2e. C'est ouvert tous les jours, midi et soir, même aujourd'hui dimanche.
Just follow the leader. Leader is you.
Follow the leader de Foxygène. On cueille, on râpe, on épluche le citron sur le plateau dont on va déguster.
Oggi vogliamo preparare il limoncello, il classico e famosissimo liquore della costiera amalfitana. E appena cotti, in modo che sono la buccia dei limoni è ricca di oli essenziali.
Les Italiens le surnomment la boisson divine, même si ça peut être aussi ce sirop un peu écœurant et sucrailleux offert par les patrons des trattoriens un peu louches. Réhabilitons le limoncello et réhabilitons-le en bonne compagnie avec Alessandra Pierini qui nous a fait cette surprise de nous apporter son limoncello maison.
Oui, comme ça, vous pouvez le goûter directement.
Alors, verdict autour de cette table.
Non, mais incroyable. De l'apéritif, c'est sympa.
Décrivons-le, c'est déjà un élixir qui est assez clair, qui est pas, qui est même assez translucide, qui est pas trop épais.
Pas très épais, non. En général, tous les limoncello maison que j'ai vus autour de moi, bon, on filtre légèrement les débris hein, pour que ça soit plus joli, mais ils sont assez clairs et transparents.
Il y a une différence notable aussi avec les limoncello industriels, c'est qu'on sent, lorsque l'on penche un peu le verre, que c'est moins sirop que certains limoncello.
Il n'y a pas de glucose, bien sûr.
Il n'y en a pas du tout.
Il n'y a que du sucre.
Oui, c'est ça, il y a du sucre, absolument. Mais je veux dire, du sucre, je suis même sûr qu'il y en a en teneur un peu plus faible. On le goûte, Laurent Ganac.
Ah, il pourrait être de menton.
Donc, ouais, quel compliment.
J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Laurent.
Ah bon ?
Je crois qu'il n'est pas fait avec des citrons de menton. Il est fait avec quoi ?
Celui-ci, il est fait avec des citrons d'Amalfi. Et apparemment, c'est le citron d'Amalfi qui a fait le premier limoncello. Et c'est un petit peu originaire donc de la côte, de la région de Campanie, de la côte en province de Naples. Donc au bord de mer,
c'est ça.
C'est là qu'il y a des citrons magnifiques. Il y en a de plusieurs sortes, dont le limone di Amalfi IGP, qui peut donner un limoncello extraordinaire.
C'est ça, IGP, indication géographique protégée. Alors là, il y a toute une collection en Italie. Hein. L'Italie, c'est quand même le pays du citron. Et son, peut-être pas son berceau, mais en tout cas sa région de prédilection, c'est la Campanie.
C'est la Campanie, donc Sorrento et Amalfi, qui sont vraiment très proches. Un dans la province de Salerno, à Amalfi, et l'autre dans la province de Naples, mais vraiment, ils se touchent. Mais bien, les citrons ne sont pas tout à fait pareils. C'est pas toujours la même période de récolte, et ça, c'est très intéressant, même pour nous, pour le consommateur, parce que comme ça, nous disposons de très bons citrons tout le temps.
C'est ça. Et là, quelle sensation dans ce verre de fruits frais, en fait. On a la sensation d'un fruit frais, pas trop acide. Comment on s'y prend pour faire un limoncello aussi bon ?
Le limoncello, déjà, il faut penser que c'est un digestif.
D'accord.
On peut le boire aussi un petit peu à l'apéritif à un autre moment, mais c'est un digestif, donc il ne faut pas qu'il soit trop sucré. Il faut vraiment qu'il ait cette action de soulager après un repas, de se sentir mieux, de rafraîchir. Donc, il faut prendre des bons citrons. Pour un litre d'alcool, bien sûr, qu'il faut à 95 degrés, donc un alcool pur. On ne le trouve pas très facilement en France. C'est vrai qu'on le trouve beaucoup plus facilement à la vente en Italie.
D'accord.
Donc, n'oubliez pas de ramener ça dans vos valises en soute.
L'alcool à
90 degrés.
On peut
vraiment
le trouver
pur, hein.
Dans les pharmacies, l'alcool à 90.
En France, c'est en pharmacie, mais bon, ça commence à devenir sur-commande.
Sur-commande,
voilà, les professionnels peuvent plus facilement.
On peut acheter des alcools de fruits également.
C'est ça.
Ça se trouve, oui.
Et sinon, on peut se le faire expédier aussi. On en trouve dans certaines drogueries. Bon, il faut chercher un alcool pur à 90.
À 90,
d'accord.
C'est l'idéal. Sinon, l'alcool de fruits peut le remplacer.
Oui.
Et donc, on fait macérer donc uniquement le zeste des beaux citrons.
On oublie le jus.
On l'a récupéré. On oublie le jus.
On oublie la partie blanche.
C'est ça.
Qu'on appelle le ziste.
Le ziste, oui, qui est peut être un tout petit peu amer.
D'accord.
Moi, j'aime aussi parce que j'adore tout dans le citron. Mm-hmm. Mais pour le limoncello, on essaye de prendre juste l'écorce qu'on fera macérer, donc l'écorce de six beaux citrons dans un litre d'alcool à 90 degrés pendant une bonne semaine, même 10 jours, on l'oublie, hein, à l'abri de la lumière. Mm-hmm. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu de le secouer tous les jours.
D'accord.
De façon qu'il soit bien mélangé. Ensuite, il suffit de préparer un bon sirop avec un litre d'eau et 700 g de sucre. Après, la quantité de sucre, on peut la moduler selon son goût personnel. Moi, je trouve que là, pour nous, c'est la bonne dose.
Ah oui, c'est parfait.
On prépare ce sirop jusqu'à 3 minutes, on le garde après ébullition, pour qu'il soit un petit peu dense.
D'accord.
On enlève, donc on filtre les écorces de citron. On prend l'alcool qui est devenu jaune, d'un beau jaune éclatant, presque fluorescent. C'est incroyable.
C'est
comme,
absolument, avec
comme
des reflets,
l'écorce donne vraiment cette couleur. Et donc, on peut le filtrer avec un linge pour enlever les petits débris.
Ou un chinois.
Et en chinois. Et on mélange donc le litre d'eau avec le litre d'alcool avec les écorces macérées.
Ouh, parfait. De toute façon, les auditeurs qui n'auraient pas tout à fait suivi peuvent retrouver la recette sur notre site internet franceinter.fr à la page On va déguster. Estherel ?
Oui, on a une question d'auditeur justement à ce sujet, puisque Alessandre a évoqué le fait de prélever le zeste du citron. Et on a Claire de Grenoble qui se demande justement comment réussir à enlever un zeste de citron en laissant le zeste de côté. Visiblement, les couteaux, les râpes, qu'est-ce que vous conseillez ?
Pour le limoncello, c'est un zesteur, un couteau qui coupe très bien. Moi, c'est comme ça que je le fais parce que j'aime bien prélever l'écorce avec des larges lamelles.
Donc
pour le limoncello,
le zesteur avec les petits trous.
Avec les petits trous, c'est ça.
D'accord,
le zesteur
aux
petits trous, c'est oui. Oh oui,
d'accord.
C'est très bien. Ou alors vraiment, il faut un couteau qui coupe extrêmement bien. Alors faire attention de garder de côté le ziste.
Nous, dans le sud, on a un truc qui va très bien pour zester. C'est un espèce d'économe qui nous sert à éplucher les tomates.
Voilà. Un économe à lame crantée un peu.
Voilà, et d'accord. Ça fait des lamelles très très fines et ça coupe très très bien. Et pour zester le citron, c'est parfait.
Ça sent le vécu, comme on dit. Vous en faites, Laurent Ganac, du limoncello?
Un petit peu, bien sûr, on bricole. Et on bat tous, à Menton, effectivement, tous les particuliers qui veulent faire leur citron, enfin leur limoncello au citron de Menton, vont effectivement s'approvisionner à l'alcool juste de l'autre côté de la frontière.
Puisqu'il y a quelque chose d'important, vous l'avez précisé, vous dites, la matière première, c'est un bon citron. Vous nous en avez apporté des bons citrons. C'est l'idée d'un citron qui n'est pas issu d'une production intensive. On évite un peu les citrons de supermarché, ne serait-ce que pour des raisons de traitement chimique, puisqu'on utilise le zeste.
C'est surtout pour ça qu'on utilise le zeste. Donc c'est très important que les citrons ne soient absolument pas traités.
Préalable.
Ça, si on se concentre sur un IGP, qui peut être aussi donc un IGP de Menton, bien sûr, pas que l'italien, c'est ça qui est l'idéal donc, pour faire utiliser et faire un bon limoncello.
Plus le citron est bon, évidemment, plus le limoncello va être de qualité. Vous n'avez pas d'inconvénient à l'idée de faire un limoncello avec du citron de Menton ?
Oh, ben non, au contraire. Je pense que je vais en faire un rapidement avec quelques citrons.
Ah ben j'espère
que
bien.
Que Laurent Ganac vous a apporté. Alors ouais. Laurent Ganac, vous êtes l'homme de la situation. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse que si le citron s'est acclimaté sur les restants de Menton il y a quelques 500 ans ?
Oui, 5 siècles. Oui, 14e siècle.
C'est une culture qui ne date pas d'hier.
Non.
Est-ce que c'est grâce à nos voisins italiens ?
Il faut bien le reconnaître. Il faut bien le reconnaître.
Qu'est-ce qu'on doit à l'Italie ? C'est incroyable. Surtout en fruits et légumes, quand même.
Il faut bien le reconnaître.
Comment ça s'est passé, l'arrivée du citron à Menton ?
Les Mentonnais ont regardé ce qui marchait à l'époque chez leurs voisins de San Remo ou de Gênes. Et effectivement, ils s'en sont inspirés et ont commencé ces cultures du citron. Mais je pense que du coup, en fait, le citron de Menton, c'est le plus haut perché dans la zone de culture du citron pour ce qui est de l'hémisphère nord, donc le plus septentrional. Et c'est peut-être un résumé tout simplement de ce qui se fait en Italie, parce que tout à l'heure Alessandra m'a montré ses citrons de Syracuse, d'Amalfi, de Sorrento, et moi ce que j'ai pu constater, c'est que sur un citronnier à Menton, sur un arbre, j'ai ces trois formes, ces trois aspects, ces peaux cabossées, ces peaux lisses, ces peaux épaisses, tout ça je peux le trouver sur un même arbre.
On n'est pas dans le gabarit standardisé des citrons qu'on peut trouver sur la majorité des étals. Vous nous avez apporté une démonstration qu'il y a une formidable biodiversité en fait dans vos vergers, y compris du côté italien naturellement, les formes diffèrent. Rien que deux citrons que vous nous avez apportés, alors moi je suis un peu perdu, parce que j'ai dans la main deux citrons de Menton. L'un est une espèce de gros citron de forme traditionnelle, un peu ovale, mais à la peau assez granuleuse et cabossée. L'autre, il a plutôt la forme d'une grosse orange, voire d'un pomelo. Il est très rond.
Celui-ci que vous avez entre les mains, si je l'ouvre, il aura une peau fine.
Oui.
Et celui-ci qui a le même aspect, qui est gros avec une peau lisse, après l'avoir ouvert, vous voyez, la peau est très épaisse.
Cela veut dire que le citron de Menton ne correspond pas à une variété en particulier. Vous avez le droit de cultiver plusieurs variétés.
Alors là, nous sommes sur deux variétés. Ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'à Menton, nous avons deux choses importantes. Nous avons un IGP qui donc qualifie un terroir, un terroir qui se définit par des qualités de sol et un climat. Et nous avons aussi une variété, qui est la vieille variété mentonaise, cultivée depuis des siècles, donc, et qui est certainement un résumé de ce qui se passe au-delà des Alpes. Ensuite, à Menton, nous avons quand même, avec cette IGP, nous avons dû donc mettre en place une appellation citron de Menton qui inclut certaines variétés, qui englobe un certain nombre de variétés qui se cultivent à Menton depuis quelques décennies, depuis les gels d'après-guerre. C'est l'époque où la culture du citron à Menton a un petit peu fléchi et d'autres variétés ont été introduites pour essayer de relancer cette production, et notamment l'Eureka que je vous ai amené, là, l'Eureka 4, qui est un très beau citron.
C'est celui-ci, l'Eureka 4 ça, c'est il n'a pas un très joli nom, hein.
C'est une
appellation
INRA, c'est un citron français, hein. C'est une appellation INRA. Donc,
qui a... Et attendez, c'est celui-ci que vous nous avez découpé en tranches ?
Non, ça c'est le mentonnet que je vous ai...
Ah, c'est le mentonnet, parce que celui-ci, le fameux mentonnet, il est tout à fait surprenant, avec une partie blanche, l'albédo ou le ziste, qui n'est pas amer par rapport à la majorité des agrumes.
Quand on ouvre un citron comme cela, il ne s'agit pas de le presser, il s'agit de le croquer, hein, on est bien d'accord.
Démonstration ? Ah oui. Et il ne s'électrocute pas.
Ça se mange comme une pomme.
Absolument, mais c'est doux. L'acidité est modérée. Vous avez une pulpe qui est juste là pour agrémenter l'écorce, en quelque sorte.
Quel parfum, quelle amplitude aromatique organoleptique
c'est
en bouche.
Exceptionnel.
Vous évoquiez Laurent Ganac, important, revenons dessus. L'obtention en 2015, ça a été la très bonne nouvelle pour Menton de l'indication géographique protégée.
De production, oui.
Ça définit effectivement une zone de production très précise. En gros, c'est Menton plus quelques
Menton
villages.
Menton et les communes limitrophes. Alors, en partant de l'ouest, on a Roquebrune, et puis vous avez la commune de Sainte-Agnès, Gorbio, Castellar, si je n'en oublie pas. Il doit y avoir peut-être le Castillon n'est pas concerné.
D'accord.
Et Menton, donc.
Et ça veut dire que cette IGP est quand même susceptible de faire renaître un citron dont l'avenir était quand même sérieusement compromis.
Absolument.
On veut le dire. Vous m'avez mis sur la piste d'archives historiques. En 1800, il y avait jusqu'à 80 000 citronniers sur les flancs de la cité de Menton, des centaines de producteurs. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous êtes combien de producteurs de citron de Menton ?
Producteurs professionnels, on se compte sur les doigts d'une main.
Oh là là. Oula. Ça veut dire que vos volumes de production sont...
infimes, c'est anecdotique. Tous citrons confondus, y compris la récolte des particuliers ou des plus réactifs qu'on essaie de fédérer pour justement collecter cette récolte. Mm-hmm. On arrive à 120, 140 tonnes, tout compris. Et aujourd'hui, dans l'IGP, on arrive à... si cette année, on arrive à rentrer 25, 30 tonnes de citron, ça sera déjà pas mal.
La bonne nouvelle, c'est que l'indication géographique protégée provoque des vocations.
Évidemment. Non, mais cette IGP, c'est un levier énorme. Je pense que les Mentonnais n'ont pas encore vraiment réalisé ce que ça va pouvoir donner. Non, c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir relancer, de remettre en place toute cette filière agrumicole.
Alors, on l'a dit, l'IGP, c'est une zone de production. J'imagine que ce sont aussi des méthodes de culture.
Il y a un cadre cultural qui est fixé par un cahier des charges bien précis et donc qui fixe aussi la qualité de cette manière-là.
On est loin d'être...
et la traçabilité.
Et la traçabilité. On est loin d'être dans une production intensive.
Ah non, on est sur quelque chose de très extensif, sur un mode traditionnel, mais ça, on va dire que c'est le terroir qui l'impose. Hein. Nous sommes obligés de cultiver avec un milieu naturel très pentu, hein, c'est les Alpes maritimes, la montagne qui se jette dans la mer. Donc le relief est aménagé en restant, en planche, en terrasse.
Ah oui, c'est ça.
Hein, soutenu par des murets ou des fois des talus quand il n'y avait même pas de pierre. Et là-dessus, il a fallu créer un sol cultivable, un sol arable, et pour planter des citronniers. Et ça s'est fait au fil de générations et de générations et de générations de mentonnais qui ont creusé, construit, constitué un sol, planté des citronniers pour arriver aux chiffres que vous disiez. Début XXe siècle, on était encore à quelques 2000 tonnes de citron produits à Menton. Comparé aux chiffres que je viens de citer, bon voilà.
Il paraît que le citron de Menton voyageait jusqu'au fin fond des États-Unis.
Oui.
Et notamment l'été d'ailleurs. Et pourquoi ? C'est intéressant.
Parce qu'en
ça.
Fait, le climat de Menton, qui est particulier, qui est relativement doux, y compris en été, permettait une récolte estivale qui arrivait à maturité, donc se colorait suffisamment pour être commercialisée, ce qui était guère possible dans les contrées les plus au sud parce que trop chaude.
Il y a un avantage de Menton sur l'Italie.
C'est très intéressant.
Nous résumons. Et donc cette récolte avait la particularité de très bien se conserver, et c'est celle qui partait le plus loin. Elle partait donc aux Amériques dans des caisses bien particulières, puisque tous ces citrons étaient emballés un par un dans une espèce de papier de soie, on dirait aujourd'hui, qui avait lui aussi des propriétés bien particulières à Menton, parce qu'il y avait une recette de fabrication qui était celle
spécifique.
De Mentonnais, qui
c'était
permettait
pas fait avec des anciens cordages. Des anciens cordages de bateaux.
Du port de Gênes qu'on achetait aux Génois.
Les Mentonnais absolument.
Et ça partait aux États-Unis dans des belles caisses en bois, toutes dédiées à une destination en fonction de la contenance, etc. C'était magnifique.
Petite question, peut-être qui fâche, on va voir. Vous avez décidé d'être en agriculture biologique.
Oui.
Ça veut dire aucun traitement phytosanitaire, ni avant, ni après la récolte. Est-ce que cela veut dire que c'est pas suffisant dans l'IGP, que dans le cahier des charges de votre indication géographique protégée, on peut utiliser ce genre de traitement ?
Oui, disons qu'il y a des portes qui ne sont pas fermées. Je veux dire, de toute manière, aujourd'hui, il y a le bio et le conventionnel. Alors, si on est en conventionnel, on n'est pas en bio. Et si on est bio, on n'est plus en conventionnel. Voilà.
D'accord.
Après, c'est les certifications qui font la différence. Nous, aujourd'hui, on est certifié IGP. Donc déjà, on a un cadre culturel, une traçabilité, une origine qui est ce qu'elle est. Mais on a également la certification biologique. C'est-à-dire que cette qualité, on la produit dans un cadre phytosanitaire absolument... excellent.
Excellent, c'est cela. Mais on peut déjà considérer que dans le cahier des charges de l'IGP, on est sur une culture vraiment rustique, avec très peu de produits de synthèse.
Nécessairement, parce que c'est le milieu qui nous l'impose. Déjà, on a un terroir qui nous permet une culture complètement rustique et complètement adaptée au sol et au climat de Menton. Donc les nécessités de traitement sont quasiment nulles. C'est vrai qu'un citron de Menton, je veux dire, c'est nécessairement un citron cultivé de manière très traditionnelle, donc avec très peu d'intrants chimiques.
Vive le citron de Menton. Et les jeunes qui nous écoutent, mettez-vous au citron, il y a moyen.
C'est pas facile de se mettre au citron de Menton. Parce que bon, voilà, on est dans une région où le tissu agricole a quasiment disparu, donc installer des jeunes, c'est compliqué parce qu'il y a un accès au foncier, au propre comme au figuré, hein, je veux dire au propre parce qu'il faut y aller, monter sur ses planches et se casser le dos en deux. Et au figuré parce que bon, on est sur la Côte d'Azur, la Riviera, avec une pression de l'immobilier qui est considérable sur le foncier, avec des coûts qui s'envolent et voilà.
Je vous propose, Laurent Ganac, une petite expérience gustative.
Oui,
vous avez dans une assiette en face de vous deux poudres magiques, deux potions qui ont été confectionnées par notre amie Alessandra Pierini. Elles sont de couleurs un peu différentes, mais on peut dire qu'elles sont raisonnablement dans les beiges jaunes. Une à gauche, une à droite. Trempez votre doigt dedans et
laquelle?
Dites-nous ce que c'est, les deux.
Alors,
allez-y.
Bon, c'est de l'agrume, hein.
On est bien d'accord, je crois même qu'on est sur un fruit que vous connaissez bien. Incroyable.
C'est vrai qu'à la couleur et au parfum, visuellement et olfactivement, c'est du citron, hein.
C'est du citron.
Je ne saurais pas dire lequel, en revanche, hein. je n'en suis pas là.
Et pourtant, il y a effectivement...
Oh là là, deux variétés différentes.
Deux variétés de gauche.
Celui de gauche, je suis d'accord. Qui est un peu plus clair.
Ah non, mais il y a autre chose. Il y a plus que du citron, là.
Ah, mais il a une
c'est incroyable.
C'est une véritable épice.
Bizarrement, ça me fait penser à l'arôme de la feuille de citron quand on la froisse. Et... il y a du pamplemousse là-dedans. Il faut savoir que le citron est un hybride naturel, donc pamplemousse cédra, avec maman cédra.
C'est ça.
Mais là, il y a du papa. Hein.
Il y a du papa. Et pourtant, ouais. Il ne s'agit que de citron. Hein.
Ça, c'est que du citron d'Amalfi. Hein. Alors, celui que...
Ah d'accord.
C'est 100% citron, les deux poudres. Je vous propose quelque chose, on va jouer justement un peu le suspense. On fait une petite pause, juste après, et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué, c'est même facile à faire, on peut le dire à la maison.
Bien sûr.
Et c'est un truc, moi, que je trouve, pour le coup, vraiment incroyable.
Non,
une espèce
c'est très intéressant.
À fabriquer à la maison dans un instant. Alessandra Pierini nous donne le truc.
Amen de bonne part.
C'est dimanche sur France Inter. On va déguster.
Elle décide, Voodoo Game. Et s'il y a bien une invitée qui nous a marabouté ce matin, c'est bien Alessandra Pierini avec cette extraordinaire poudre magique. J'allais dire poudre de perlimpinpin, je n'oserais pas parce que c'est pas du perlimpinpin. C'est un truc bien plus précieux que ça.
C'est mon secret, ça.
On redit en un mot pour nos auditeurs. Deux poudres qui sont en fait un peu comme des épices de couleur un peu jaune clair. Mais alors, de quoi s'agit-il?
C'est ça, c'est de la poudre d'écorce de citron.
De la poudre d'écorce de citron.
Donc moi, je m'amuse de faire des poudres de différentes variétés de citron parce que, comme on a constaté tout à l'heure, ils n'ont absolument pas la même saveur. Ça dépend surtout de la concentration en huile essentielle parce que c'est bien dans la peau du citron que c'est là qu'on retrouve ces arômes assez persistants et ces parfums assez incroyables. Mm-hmm. Donc, où il n'y a pas l'acidité. Donc, c'est tout le parfum qui se développe.
Et il y a vraiment, effectivement, on sent ces huiles essentielles. On peut balader cette petite poudre sur un carpaccio, sur une salade, sur un poisson.
Du poisson, on peut faire un beurre au citron et un sucre aussi avec cette poudre de citron.
Et on peut mélanger du beurre avec ça.
On peut mélanger du beurre, un petit peu ramolli avec la poudre de citron et après se faire des tartines ou
incroyable.
Juste sur du pain grillé avec une tranche de poutargue, du thon. Ça va très bien. On le met dans les yaourts. Moi, vraiment, quand je l'ai dans la cuisine, je l'utilise partout.
Mais est-ce que c'est si facile à faire, Alessandra?
C'est quand même assez simple. Le plus compliqué, c'est vraiment
de trouver
d'avoir
les bons citrons.
De très très bons citrons.
On y est. Ça, on va aller voir Laurent Ganac.
La condition absolue est nécessaire pour les avoir parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient traités. Après, on prélève le zeste.
Avec la méthode d'Esterel ou...
Avec la méthode d'Esterel, oui. Avec un épluche-légumes, c'est très bien. Avec un zesteur, bien sûr. Mm-hmm. On le met sur une plaque allant au four et puis on l'oublie dans un coin de la cuisine, dans le four éteint. Et on en fait un tas comme ça. Il sèche au bout de 3-4 jours. Ça dépend un petit peu de l'atmosphère, de l'humidité dans la maison. Si on veut accélérer le processus, ça suffit de le mettre au four juste à 30 degrés pendant 3-4 heures. Et ensuite, on le mixe.
C'est
on
ça.
Le mixe plusieurs fois
dans un robot mixeur.
Il faut qu'il y en ait une certaine quantité
bien
pour
sûr.
Que ça soit après bien réduit en poudre. Mm-hmm. Et ça y est, petits d'à-coups, de façon que la lame ne le chauffe pas, surtout pas.
C'est vraiment incroyable.
Et voilà, et le tour est joué. Ça se garde très longtemps.
Est-ce que Laurent Ganac va essayer cette poudre d'écorce de citron avec du citron de menton?
Ah, je pense.
Ah, il est carrément en train de croquer ses citrons.
Il aura fini son citron. Ça va lui donner de l'énergie, là.
J'ai été surpris.
Ça, vous ne devez pas manquer de vitamine C toute l'année, Laurent Ganac.
Non, c'est vrai. Je reconnais. Non, il y en a un qui va être intéressé, c'est mon fils, parce que lui est passionné par la transformation de notre production. Il m'a rejoint récemment.
La bonne nouvelle. On parlait de vocation, votre fils vous rejoint.
Super. Lui, il a la possibilité, parce qu'il a un papa agriculteur qui a des plantations, donc il peut arriver à reprendre le flambeau. Donc c'est beaucoup plus difficile pour tous les jeunes aujourd'hui qui veulent essayer de se lancer dans le citron.
Vous évoquez divers variétés de citrons en Italie. Laquelle est la plus cultivée en Italie, Alessandra?
La plus cultivée, la plus répandue, c'est le citron de Syracuse. Donc Syracuse,
là,
qui est dans le sud de la Sicile. On est en Sicile. Il y a environ 5500 hectares de cultivés. C'est une IGP. Et c'est un citron qui s'appelle, donc la variété s'appelle Femminiello. On pourrait dire un petit peu comme la variété 4 saisons qu'on retrouve.
Femminiello, je crois que c'est un groupe en fait de.
C'est un groupe.
Hein, de citronniers.
De citronniers.
Qui équivaut, oui, le terme Femminiello.
Et après, il y a différents clones, je ne sais pas si on peut dire ça, ou différentes sous.
Variétés. Voilà.
Et donc c'est un citron qui...
Il y a pas mal d'auditeurs qui nous demandent, lorsqu'on n'habite pas à Menton ou dans les alentours, ou qu'on n'est pas près d'une très bonne épicerie italienne comme celle d'Alessandra Pierini, où est-ce qu'on peut trouver des citrons de qualité, des citrons qui ne sont pas issus d'Espagne, d'agriculture intensive et qui donc ne sont pas traités? Le citron de Menton, on peut le trouver sur certains étals?
Malheureusement, c'est très difficile parce qu'on a une production anecdotique, je l'ai dit, donc c'est très difficile de le trouver en frais. Nous, de l'autre côté, l'essentiel de notre production part à la transformation. Donc, en revanche, on peut trouver aujourd'hui des produits transformés à base de citron de menton. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, qu'il puisse arriver relativement en masse sur le marché et de qualité, il me faut le dire, tant pis, ça reste un citron de Sicile, les citrons feuilles qui arrivent avec, ils ont une gamme bio, ils ont un mode de production bio qui est tout à fait convenable, donc bon, je suis quand même obligé de le reconnaître, c'est beaucoup plus simple de trouver un bon citron feuille italien qu'un bon citron de menton sur le marché.
Vous évoquiez la feuille, et bien justement dans un instant, on va voir avec Alessandra Pierini, à travers une recette extraordinaire, qu'on peut aussi utiliser la feuille du citronnier, et ça c'est intéressant. Précisons aussi que vous expédiez vos citrons, Laurent Ganac.
Absolument. Effectivement. On, fait, on a donc un site qui passe marchand, d'ailleurs, ces jours-ci, et on a un petit mode d'expédition de, par 9 kilos. Et c'est vrai qu'on n'est pas des épiciers, nous.
Ah oui, donc il faut se grouper entre amis.
Il faut trouver des amis.
Voilà. Et c'est quoi le prix au kilo en moyenne d'un bon citron? C'est quand même pas les citrons industriels qu'on trouve en supermarché. Hein.
Oui, c'est vrai que ça n'a peut-être rien à voir, mais enfin, pour un citron doublement certifié comme le nôtre, hein, donc IGP, l'appellation citron de Menton, avec toutes les garanties que cela implique, et la certification bio, nous sommes, nous, au détail, à 7,50 euros le kilo.
Eh ben oui, mais bon. Et combien de citrons dans un kilo?
Ça dépend de la taille du citron. Il y en a, je dirais, entre 1 et 8.
Et puis des citrons dont on mange tout. La peau, le zeste, l'intérieur, et pas que le jus.
Oui, ceci dit, soyons précis. C'est vrai que plus le citron est gros avec la peau épaisse, plus on a la possibilité de consommer l'écorce. Hein.
Eh bien voilà.
Je dis bien l'écorce. Hein. L'écorce, c'est ce qui enveloppe le fruit. La peau, c'est ce qui enveloppe les petits quartiers de pulpe.
Et on ne sait pas si Esther El Payani a commandé de très bons citrons par Internet pour commettre ce petit miracle pâtissier.
Avec une fourchette, des baguettes et même avec les doigts, on va déguster sur France Inter.
Je vous taquinais tout à l'heure, Estherel, en disant qu'aujourd'hui vous étiez la reine des tartes. Elle est très facile, elle est vulgaire, c'est pas sympa, et en même temps, ça vous rend hommage.
Mais elle est tellement bonne, la tarte au citron, justement.
Oui.
En effet, je me suis pressée le citron. En l'occurrence, un citron de Syracuse que je suis allée chercher chez Terroir d'Avenir. Chez Terroir d'Avenir, c'est un peu plus près pour moi.
Une très belle épicerie parisienne, rue du Nil, Paris 2e.
Où ils ont effectivement toujours de très beaux citrons. Et cette tarte au citron, c'est la tarte préférée de 33% des Français.
Ah, quand même.
Donc c'est pas très, ce n'est pas follement original. Derrière les desserts au chocolat d'ailleurs, c'est le premier dessert fruité. Pourtant, dans mes souvenirs d'enfance, ce n'est pas une épaisse tarte au citron meringué que je revois, mais une tartelette caramélisée, croûtée sur le dessus, à la consistance entre la pâte d'amande et le flan.
Ah oui, ça me dit des souvenirs aussi.
Ah, ouf, on a le même âge. Rien à voir avec la version crémeuse et jaune pâle qui trône actuellement dans les vitrines de tous les pâtissiers.
Donc on peut raisonnablement dire que ça remonte à pas mal d'années tout ça.
Oui, quand même, mais... Telgut, c'est criant. Connais-tu le pays où fleurissent les citronniers après avoir visité les jardins botaniques de Palerme? Je pourrais m'exclamer. Connais-tu le pays d'origine de la tarte au citron, François-Régis? Direction mes vieux livres de pâtisserie pour y répondre.
Et là, vous avez encore dégoté une information improbable, étonnante.
Oui, alors je m'attendais à crouler sous les recettes de tarte au citron et je suis ressortie bredouille. Pas de traces de tarte dans le mémorial de la pâtisserie de Lacam, le livre de référence de la fin du 19e, chou blanc dans le traité de pâtisserie moderne de Dardenne et Duval, le manuel de base des années 50, et c'est seulement dans un livre des années 60 que j'ai déniché une recette au four avec des œufs et du jus de citron, celle de notre enfance.
Est-ce à dire que, en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la tarte au citron est très récente en France?
C'est bien l'impression que j'ai. Alors, je ne suis pas historienne, mais dans mes souvenirs, je suis remontée en Angleterre en disant... J'ai souvenir qu'il y a pas mal de desserts au citron là-bas. Et en effet, on les retrouve depuis l'époque victorienne, avec des puddings garnis de lemon curd.
Lemon curd.
Voilà l'histoire. Cette tartinette cuite à la casserole comporte du jus de citron, du sucre et des jaunes d'œufs. Et avec les blancs qui restent, on fait quoi? De la meringue.
Et ben voilà.
La boucle est bouclée. Justement, cette meringue, c'est l'idée qu'a eue au 19e siècle l'américaine Elizabeth Cohen Goodfellow pour ses puddings.
Elizabeth, on parle bien de la reine du pudding.
En fait, c'est la reine de la tarte au citron qui mériterait d'être aussi connue que les sœurs Tatin. Cette pâtissière de Philadelphie qui a créé la première école de cuisine américaine a également laissé la première recette écrite de tarte au citron meringuée. Elle l'a créée tout simplement en enlevant des couches à son pudding au citron et en le nappant de meringue pour ne rien perdre. Vite, une place au panthéon des gourmets pour Elizabeth Cohen Goodfellow, bienfaitrice de l'humanité.
Moi qui pensais que cette fameuse tarte au citron était bien made in France, etc., je suis un peu déçu. En tout cas, du 19e siècle à nos jours, la recette a quand même évolué, changé.
Puisque j'avais sorti tous mes livres de pâtisserie, j'ai continué et j'ai cherché l'évolution de cette crème, de ce lemon curd. Les quantités de sucre diminuent et celle de beurre augmente. Par exemple, pour le nôtre dans les années 70, 100 g de jus de citron, 180 g de sucre, autant d'œufs, 130 g de beurre seulement, 130 g, et un petit peu de gélatine. Mais chez Pierre Hermé et Jacques
c'est
Genin...
C'est là où le beurre a vraiment...
Chez Pierre Hermé et Jacques Genin, dont on connaît l'immense talent, le beurre a pris la tête des proportions. C'est l'ingrédient numéro 1 de la crème, 200 g, parfois plus même, avec une crème donc plus acidulée et moins sucrée. Tout change donc, même les goûts et l'acidité de la tarte au citron qu'on pensait si traditionnelle.
C'est ça, la tarte au citron, mythe pâtissier chez les grands pâtissiers parisiens, on en sait quelque chose, avec ou sans meringue, mais on va abandonner le débat. Nous, ce qu'on voudrait, Esther El, c'est la recette d'une belle tarte au citron ménagère, comme celle que vous nous avez apportée. Vous allez d'ailleurs la faire passer très très vite, elle est admirable.
Alors il va falloir que je découpe en même temps que je vous explique comment
vous
je l'ai faite.
Vous voulez que je le fasse?
Non, tout simple. Bon, je suis une femme, je peux faire...
Voilà, regardez, Laurent,
décidément, tout le monde va avoir le couteau à la main pour la découper et la goûter plus vite.
Je sais quelle idée il a derrière la tête, votre voisin.
Alors cette tarte au citron, elle est toute simple. Vous prenez une abaisse de pâte sablée. Mm-hmm. Bon, là j'ai fait une pâte sucrée avec un petit peu de poudre d'amande dedans, ou pas. Vous battez 3 œufs. Avec 100 à 120 grammes de miel toute fleur.
Ah,
c'est selon
miel.
L'intensité du citron. Oui, c'est l'occasion d'utiliser un peu de miel. 100 grammes de crème épaisse. Et puis le zeste et le jus de 2 citrons. Alors, tout dépend des citrons que vous utilisez. Moi, je compte 10 centilitres de jus de citron.
D'accord.
Un petit
également
peu...
le zeste. Hein.
Alors, le zeste. Moi, j'utilise une râpe microplane pour le râper fin.
Vous citez des marques, ça vous dérange pas?
Microplane, c'est quand même assez indispensable
cette
pour les zestes. J'avoue, j'ai du mal à m'en passer.
Il faut quand même reconnaître qu'il est...
En cuisine, on
inégalable.
L'utilise. Oui,
voilà.
Avec plaisir, oui.
Et une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Oui.
Ça, c'est mon petit truc quand même pour émulsionner. Et puis, si vous avez aussi des très bonnes huiles d'olive parfumées au citron, c'est l'occasion de renforcer. Donc, vous faites pré-cuire la pâte. Petite dizaine de minutes avec un lest,
oui.
Donc des légumes secs ou des billes. Pendant ce temps, vous battez tout ce que j'ai énuméré au préalable, sans trop faire mousser, ça c'est important. Et puis vous versez dans la pâte. Le point délicat, c'est de bien poser la tarte sur une plaque. Parce que quand vous allez enfourner, comme l'appareil est très 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 liquide, ça risque de déborder légèrement. Et puis vous faites cuire 20 à 30 minutes en patientant à la fin parce que ça caramélise assez vite. L'idée, c'est d'avoir que la crème soit prise, mais pas grumeleuse. Et vous savourez.
Vous avez donné le temps de cuisson, oui.
10 à 15 minutes
j'écoutais
la pâte.
Plus du tout parce que
et puis 20 à 30 minutes quand on est à côté pour
elle
le
est
flan,
délicieuse, la parfumée.
Elle envoie du métal. Quand on dit le citron,
oui.
Et elle envoie du métal parce qu'en plus, elle a vraiment ce goût.
Oui,
frais. Mais alors, encore une fois, avec, on voit que c'est un bon citron parce que le citron, on le redit à nos auditeurs, ce n'est pas que de l'acidité. C'est un volume d'arômes tout à fait surprenant. Laurent Ganac, vous pensez quoi de cette tarte?
Ce que je ne connaissais pas si bien que ça, c'est le miel avec le citron et ça va super,
c'est super
bien.
Le mien, on le sent, c'est quelque chose de plus qui donne à la tarte, excellent.
Il faut qu'un citron soit acide. Un citron, si on l'aime, c'est quand même pour son acidité. Alors on peut traverser le terme et parler acidulé, oui. Mm-hmm. Mais le citron, c'est acide. Mais ce qu'il faut que les gens sachent, en revanche, c'est qu'un citron absorbé au contact des muqueuses, donc, sitôt métabolisé, il produit des résidus alcalins. Donc, en fait, pour l'organisme, le citron n'est pas acide.
Voilà. Il est même, au contraire, alcalin.
Un peu acide dans la pH. Mais c'est tout à fait contre-acide, anti-acide au niveau de l'organisme.
C'est important à préciser. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous buvez un petit jus de citron tous les matins, Estal.
Vous avez... dévoiler le secret de ma forme légendaire.
Et si on était totalement snob, on utiliserait du miel de citronnier?
Tant qu'à faire, mais bon.
Ouais.
Là, j'avoue, c'est juste du tout de fleur. Mais si vous avez ça sous la main, n'hésitez pas.
Il y a des abeilles qui se baladent dans vos vergers, Laurent Ganac?
Inévitablement, de manière essentielle, même il en faut des abeilles.
Et bien sûr.
Sans abeilles, point de citron.
Et point de tarte au citron en Italie? Si, bien sûr.
Il y a des tartes au citron, mais il y a la tarte comme elle vient de nous faire Esther, un peu dans ce style comme ça, de pâte sablée.
Ménagère.
On l'a fait, mais la tarte au citron en Italie, c'est plutôt une génoise avec du zeste, du jus de citron. C'est comme ça, la grosse tarte, un petit peu moelleuse. Et il n'y a pas vraiment de tradition de tarte au citron que vous pourrez faire avec la crème.
Alessandra, il y a un problème. Vous nous l'avez apporté, cette torta di limone?
Non, mais je reviens une prochaine fois.
Mais vous vous rattrapez,
ça avec plaisir.
Avec une dernière recette, avant de nous quitter, évidemment. Alors là, on revient au salé. Et on va montrer à nos auditeurs, ceux qui auraient, par exemple, un citronnier dans leur jardin, non traité, évidemment, ou qui auraient accès à des feuilles, parce que les bons citrons sont souvent vendus avec leurs feuilles, qu'il ne faut surtout pas jeter les feuilles. C'est un support, là encore, aromatique exceptionnel. Racontez ce que vous nous avez fait.
Là, j'ai fait des boulettes avec des feuilles de citron. La feuille de citron, c'est, on peut dire ça, une herbe aromatique. Je m'en sers
feuille de citron,
très souvent. En plus, elles sont belles. Si elles ne sont pas traitées, elles sont magnifiques. Ça sert de support, c'est décoratif et ça donne un parfum particulier aussi à la viande dans ce cas, parce qu'il y a quand même des huiles essentielles dans la feuille.
Parce que je connaissais les feuilles d'agrumes utilisées notamment dans le répertoire asiatique, la feuille de kombava dans la cuisine thaïlandaise notamment. Mais alors la feuille de citronnier, c'est vrai que c'est peut-être moins connu?
Oui, parce que c'est probablement parce qu'on trouve de moins en moins de citron-feuille aussi. Donc, et puis on se pose peut-être pas forcément la question. Moi, je l'ai toujours mis dans des bouillons. C'est excellent. Quand je fais un bouillon pour faire un risotto par exemple, ou un comme pot-au-feu, je mets les feuilles de citron.
Les feuilles de citron, vous en faites quoi, Laurent Ganac?
Les feuilles de citron, je vous avoue qu'on n'en fait pas grand-chose. On les laisse, c'est vrai, sur les. Elles accompagnent les fruits pour les présenter et être garantes de la fraîcheur du fruit.
C'est vrai, quand on a une feuille bien brillante,
verte, bien hydratée, nécessairement le fruit l'est au moins autant.
Ah oui, c'est donc un test de maturité du fruit, en fait, Estherelle.
Moi, j'emballe les aubergines pour passer au barbecue, les lamelles de mozzarella pour faire griller.
Oh. Alors, est-ce que vous laissez Michel Billou, notre réalisatrice, est très intéressée, je crois, par votre recette, et qui demande si, c'est une très bonne question, est-ce que cette feuille, elle sert à quoi? Est-ce que vous la mettez en entier ou vous la broyez?
Non, je la mets en entier. Après, on la mange pas, bien sûr, la feuille. Elle sert donc pour garder la boulette avant de la cuire. Donc, on la maillote. Si on a deux petites feuilles, on en met une dessous, une par-dessus. Si elle est grosse, par contre, on fait comme une sorte de maquis. On l'enrobe avec, on fait une sorte de petit roulé dans la feuille.
Un petit boudin.
Un petit boudin. On peut l'arrêter donc avec un petit cure-dent. Sinon, on les met côte à côte dans un plat.
Qu'est-ce que c'est,
elles se font cuire comme ça au four, elles sont belles, on les défait juste au moment de manger, ça permet que la paupiette garde bien tous ses sucs, son jus.
On enlève le papier cadeau. Dites-nous en un mot, ces boulettes, on les fait comment? C'est des boulettes de veau, il faut donc
de la viande hachée. Moi j'utilisais de la blanquette que je hache moi-même. Mm-hmm. Il faut une bonne poignée de parmesan, de bonne italienne, on en met toujours un petit peu.
Oui.
Un œuf pour 400 grammes de viande, le zeste de un citron, sel, poivre. On mélange tout ça, on façonne des petites boulettes d'environ 70 grammes chacune.
Génial.
Et c'est comme ça qu'on les met donc à l'intérieur de cette jolie feuille et on les fait cuire au four chaud pendant un petit quart d'heure.
Oh là, le parfum, la fraîcheur.
On les mange même froide.
La sensation fruitée de cette boulette, c'est extraordinaire, Laurent Ganac.
Mais c'est génial, surtout ça. En plus, ça se mange froid comme cela et c'est vrai que le citron ressort. Moi, je trouve ça. Je suis conquis.
Moi, je remets encore un petit zeste comme ça pour servir dans l'assiette. C'est encore meilleur.
Estherelle?
Je pense qu'elle gagne le prix citron. Ah non, c'est quand c'est pas bon, c'est le prix orange quand c'est bon.
Oui, oui, mais bon, on va quand même lui donner un prix citron.
La boulette au citron, c'est quand même quelque chose.
Et cette recette, comme toutes les recettes d'Alessandra, eh bien, figure sur notre site internet franceinter.fr à la page On va déguster. Il y a ce petit bouquin vraiment mignon, adorable, avec 10 recettes essentielles pour cuisiner le citron. Le citron, 10 façons de le préparer, signé Alessandra Pierini aux éditions de L'Épure. On peut le trouver dans votre épicerie rap dont vous nous rappelez l'adresse.
C'est ça, RAP est aux 4 rues Fléchier, Paris 9e.
Et dans toutes les bonnes librairies, et puis chez RAP, on retrouve évidemment du citron d'Amalfi, de Syracuse.
Et de Sorrento, bien sûr.
Et vous ne feriez pas une petite exception pour le citron de Menton, voilà, chez RAP, quand même?
On devrait discuter.
Pourquoi pas, ça serait bien, hein, ça serait château, oui.
Vive le citron de Menton, merci pour cet espoir que vous nous avez communiqué concernant l'avenir de ce citron extraordinaire. On voit qu'il y a de la relève de votre côté, notamment du côté de votre fils.
Ben oui, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir permis d'en parler. J'espère que qu'on fait des émules et que les jeunes vont s'intéresser à ce citron de Menton, qui le mérite vraiment.
Voilà. Le citron de Menton, vive le citron de Menton. Dans un instant, vous retrouvez Sébastien Paour pour l'émission Questions politiques. Et la semaine prochaine, venez nous voir au Salon du Livre. Nous serons en direct depuis la porte de Versailles. Ça se passe au studio Radio France. On va évoquer la cuisine marocaine et cette vague impressionnante des livres autour de la santé alimentaire. Bon appétit à tous. Au revoir Alessandra.
Arrivederci.
Au revoir Laurent.
Merci, au revoir. Moi je suis encore sur ces boulettes là, la viande, c'est extraordinaire.
Oui, extraordinaire, on peut le dire. Au revoir Estelle.
Ciao.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.